Vous écoutez
RMC.
Tiens, question les gars, transversale, puisqu'on parle là certainement, je crois qu'il n'y a pas trop de débat en Angleterre et en Grande-Bretagne, le plus grand joueur de l'histoire du football anglais. Dans vos pays, est-ce qu'il y a un homme comme lui qui fait l'unanimité, qui est considéré comme le plus grand du football de son pays, de son histoire? Mon cher Polo, chez toi, il n'y a pas de débat, c'est Franz Beckenbauer?
Oui, enfin, il y a de plus en plus un débat dans le sens où Gerd Müller a disparu. Et en fait, pour reprendre la phrase de Paul Breitner, les grands succès du Bayern Munich, c'est aussi parce qu'ils ont eu un attaquant d'exception. Et en fait, aujourd'hui, on met un petit peu un B Gerd Müller par rapport à Franz Beckenbauer. Mais Franz Beckenbauer, c'était aussi une personnalité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui plaisait énormément à une certaine partie de l'Allemagne. Il était marié à 20 ans, etc. C'était le gendre
à
parfait.
À l'Allemagne de l'Ouest. Gosse,
oui, l'Allemagne de l'Ouest.
Évidemment.
C'était le gendre parfait, etc. Il avait une personnalité. Il y avait beaucoup de politique derrière ça. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'entendait pas avec Paul Breitner, par exemple. Mais sur l'efficacité, si on reste d'un point de vue purement footballistique, Gerd Müller, il se pose là, quand même. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est Beckenbauer et Gerd Müller. Mais c'est marrant ce débat, ce que tu poses, que il y a 25 ans, on se posait pas cette question. Beckenbauer, il a révolutionné le football avec son poste de libéro, avec ce qu'il est devenu au milieu de terrain, etc. Donc, il a influencé, évidemment, le football allemand pendant 25 ans, parce que tout le monde, on va jouer comme ça pendant 25 ans jusqu'à ce que ça explose de cette façon. Mais Franz Beckenbauer, avec le torse droit et tout ça, a influencé partout dans le monde entier des libéraux, des défenseurs, parce qu'il fallait jouer comme Beckenbauer. Et donc, oui, évidemment, Franz Beckenbauer a tout gagné, a tout raflé, mais comme sa génération, il est au-dessus parce que c'est une icône qui va pas bien d'ailleurs physiquement parlant. Mais là, si tu veux, il est toujours considéré comme le numéro aujourd'hui. Mais le décès de Gerd Müller très récemment a fait que l'histoire, ça se révise aussi. Il faut regarder les choses d'une façon plus complexe, etc.
Mon cher Johan, en Italie.
C'est un débat intéressant, mais il n'y a pas de réponse unique en Italie. Et on va dire qu'il y a trois joueurs vraiment qui
se détachent.
Ouais, qui se détachent clairement. Il y en a un, c'est sur des époques différentes, en plus sur trois époques différentes. Il y a le tout premier dans l'ordre de l'histoire, Gigi Riva, forcément parce que joueur créatif, joueur attaché à un club qui n'était pas un grand club, Cagliari, avec qui il remporte un titre. Il termine meilleur buteur, il gagne l'Euro 68. C'est vraiment un joueur qui a marqué toute une génération. Et en Italie, on a souvent, dans les joueurs les plus anciens, quand on cite ceux qui ont le plus marqué les gens, etc., on a souvent Rivera, pour le coup. Rivera du Milan, qui a été Ballon d'Or. Le deuxième, par ordre chronologique, on va dire, c'est Roberto Baggio. Parce que c'était pas simplement le footballeur, c'était aussi une personnalité, quelqu'un de très attachant, parce que il était un peu renfermé sur lui-même. On avait toujours un peu envie de le prendre dans nos bras pour parfois il avait l'air un peu triste. On avait toujours un peu l'envie d'être son pote, d'essayer de lui de le faire un peu parler, de s'exprimer, etc.
Et le consoler quand
de le consoler aussi.
Coupe du monde.
Évidemment, 94 joue beaucoup dans le côté émotionnel, mais il y a aussi le fameux transfert de Florence à la Juve où on a l'impression que c'est la haine, etc. Puis en fait, il revient avec le maillot de la Juve à Florence. Il est hué, puis il sort, puis il ramasse une écharpe de la Fiorentina qui lui est lancée, il la met autour du cou. Il y a des moments comme ça de la carrière de Baggio qui ont été très importants. Et le troisième, je pense, c'est Paolo Maldini. Parce que défenseur ultra élégant, en fait, qui tranchait vraiment avec beaucoup d'autres défenseurs de l'époque. On avait l'habitude des défenseurs un peu rugueux, des Gentile, des Chirea, des Ciro Ferrara. Tous ces défenseurs-là qui étaient vraiment, pour le coup, très très rugueux, et lui arrivait classe,
l'alliage, l'élégance,
un droitier qui joue à gauche, très technique, qui avait tout pour plaire en fait. Donc c'est vraiment, je ne saurais pas dire, je pense que, allez, si je dois en choisir un, je pense que Baggio, avec le côté vraiment personnalité auquel les Italiens se sont attachés, si je dois en choisir un, ce serait peut-être lui.
Fred en Espagne.
Je pense que c'est l'unanimité pour tout le monde, c'est Andrés Iniesta. Je pense que c'est... Alors bien sûr, il y aura des préférences particulières, mais il fait l'unanimité pour plein de raisons. Déjà, c'est le souvenir de tout le monde du but en finale de la Coupe du Monde 2010. C'est le premier titre espagnol. Enfin, il y avait eu une Coupe d'Europe, un Euro en 64, mais bon, ça comptait pas vraiment. Enfin, mais c'est le message pour Dani Jarque, son ami de l'espagnol qui était mort d'une crise cardiaque peu de temps avant. C'est le joueur le plus beau et le plus important du Barça pendant 15 ans. 15 ans dans l'équipe première du Barça, 2 ans dans l'équipe B. Et puis c'est l'union de l'Espagne Real et de l'Espagne Barça, parce qu'il est pas catalan, il est de la Manche, Castille-La Manche, donc c'est un Castillan. Au départ, supporter du Real, une grande famille de supporters du Real, il est formé au Barça, donc c'est un pur produit de l'école de foot de la Masia, de l'école du foot du Barça. Donc c'est aussi la formation l'espagnole qui est mise en valeur. En fait, il regroupe tout ce qu'il faut. Et même le plus anti-barcelonais des supporters du Real, il applaudira André Iniesta. Et en fait, si Xavi Hernandez, par exemple, met le but en finale de la Coupe du Monde, il y a moins d'unanimité que si c'est André Iniesta. Et puis surtout, et on va terminer par ça, il est le symbole du football qu'on aime en Espagne, c'est-à-dire le petit milieu de terrain ultra technique. C'est-à-dire que c'est si tu veux donner une définition de l'Espagne moderne du football, du joueur, du portrait robot du joueur, c'est André Iniesta.
Je crois qu'on pourrait faire une heure sur vos top 3 les gens. Évidemment, il y a beaucoup de noms qui circulent pour l'Allemagne. On parle de Rubech également, mon cher Polo, Rummenigge, bien sûr. Ça te fait marrer. On nous parle de Raúl en Espagne. Xavi, évidemment, qu'on met derrière Iniesta.
Ouais,
bien sûr, il est pas très loin. Xavi, bien sûr, un champion d'Europe.
Fernando Hierro, par exemple, aussi a été un immense défenseur et un immense milieu terrain aussi.
Et en 20 secondes, mon cher Julien, qui viendrait selon toi en Angleterre derrière Bobby Charlton?
Si, tu peux avoir un Stanley Matthews, bien sûr, qui avait gagné le premier Ballon d'Or en 56, Tom Finney, des joueurs qu'on a encore moins vu jouer que Sir Bobby. Tu peux aller chercher aussi un Rooney, un Kane, peut-être à la fin de sa carrière, s'il remportait plus de titres avec le, voilà, mais Ballon d'Or, Ligue des Champions, Coupe d'Europe des clubs champions et Coupe du Monde. Avant qu'il y ait un autre anglais qui fasse ça, oui, il faudra se lever tôt.
Puis, juste, puisqu'on parlait des joueurs anglais, recommander la série sur Beckham.
Exceptionnel. Elle se regarde très bien.
Ouais.
Le gars est d'une rare honnêteté, transparence également, sincérité. Regardez-la, c'est sur Netflix.
Il est très sympa, David Beckham. Je pense qu'il
est devant la caméra et pas forcément dans la vie.
Non, il est très sympa. Ouais. Mais il est très sympa et je pense que il est tout à fait conscient de son image, mais il a pas besoin de se forcer beaucoup pour être sympa et avoir l'air sympa.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il est la 80% de ce qu'il montre, il l'est vraiment. Après, c'est quelqu'un qui sait parfaitement qui il est et ce qu'il doit et ce qu'il gagne avec son image.